aujourd'hui dédié au DPE, le nouveau DPE. Je m'appelle Fabienne Pélissou-Tessier, je suis formateur et consultant. J'interviens dans des sujets métiers tels que déontologie, discrimination, loi climat, mais également sur des sujets gestion locative. Notre sujet d'aujourd'hui est un sujet central. C'est peut-être la première fois qu'on apprend à lire un DPE. Pourquoi ? Parce que ce DPE, c'est la pierre angulaire, le point de départ. C'est tout ce qui va générer la lecture de la fameuse loi climat. Indissociable de la loi climat. Vous le savez peut-être, interdiction de louer, obligation d'affichage, critères de décence, indexation, non-indexation plutôt des loyers pour les administrateurs de biens. C'est l'étiquette énergie qui va déterminer ça. Pour les transactionnaires, l'audit, l'obligation d'audit. Donc, je ne pourrai pas vendre sans audit si j'ai une lettre F ou G. Le DPE est devenu central. C'est lui qui va permettre de dire où je me situe et de déclencher ou pas les dispositions du calendrier. L'enjeu pour vous, quel est-il ? Savoir le lire, savoir l'expliquer à vos vendeurs, à vos bailleurs, dans un premier temps. Pourquoi ? Éventuellement, prendre des mesures d'ajustement qui ne permettront de ne pas être dans ces lettres-là. Vous verrez, certaines lectures tout à fait évidentes vont vous permettre d'aiguiller telle ou telle solution avant vente ou avant location. Ça, c'est une première chose. Dans le cadre de vos négociations avec vos locataires comme avec vos acquéreurs, avoir la pleine capacité à expliquer le contenu pour aiguiller et ne pas laisser partir les débats dans tous les sens. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je vous propose que nous regardions d'une part le cadre légal, d'autre part comment est fait un DPE, et ensuite apprendre à le lire et tout bêtement se mettre en situation au cas par cas à travers des exemples réels. Alors nouveau DPE. Ce nouveau DPE qui est entré en vigueur au 1er juillet 2021. Il est tout à fait indépendant de la loi climat, c'est une idée de longue date, de toiletter et de revoir le DPE. Quelles sont ses ambitions ? La première, c'était d'établir un document fiable et très lisible, qui permettra à la première lecture de voir où sont les points qui vont permettre ou impacter le DPE. Ce DPE, il ne repose plus que sur des caractéristiques techniques et environnementales. Fini l'idée de comparer aux factures d'énergie de tel ou tel occupant. Là, ce seront d'un côté les données techniques du logement, avec une révision totale de la méthode, et les données environnementales, donc par exemple l'altitude, l'exposition, etc. On a complètement changé de raisonnement. Le DPE qui, à l'époque, ou tout au moins dans son ancienne version, se préoccupait de conso, de chauffage et de production d'eau chaude, aujourd'hui résonne en énergie globale. On parle en consommation énergétique du logement. Ça veut dire le chauffage, ça veut dire l'eau chaude, ça veut dire les auxiliaires, ça veut dire toute la conso courante et la réintégration des énergies propres. En fait, ça va marcher un petit peu comme les vases communicants. Vous avez un certain nombre d'énergie. Les énergies renouvelables vont venir pondérer de façon positive ce que vous avez dans le DPE. Donc le DPE est censé être quelque chose de très réel et très technique. Par ailleurs, une nouveauté, ce DPE, il est opposable. Opposable, vous l'avez entendu partout, opposable par les acquéreurs, opposable par les locataires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'en cas d'écart de consommation réel entre ce qui a été estimé, parce qu'on parle d'une fourchette dans le DPE, et ce qui est réellement consommé par le locataire comme par votre futur acquéreur, eh bien celui-ci pourra demander réparation si d'aventure il a un écart. Pas un écart en valeur absolue, un écart sur les données techniques. Je prends un exemple. Vous avez indiqué entre 1500 et 2000 euros de facture et votre acquéreur ou votre locataire vient vous dire dans un an plus tard, ah bien j'ai consommé entre 2000 et 2300 euros. Je veux que vous me remboursiez. Alors ça ne marche pas comme ça. Hein. Faudra-t-il revoir le DPE ? C'est pas de facture à facture. Le DPE, il est fait pour chauffer à 19 degrés. Il est fait pour une quantité d'eau chaude estimée. On va vérifier à données constantes hein, que ce sera la même chose. Donc, on n'est pas du tout sur les factures, mais on est dans l'idée que l'on va vérifier ce qui s'appelle les points d'entrée, c'est-à-dire toutes les données techniques qui ont permis au DPE d'être réalisé. Si une de ces données techniques est fausse, eh bien, il y aura réparation. Mais on ne parle pas, j'insiste, de facture à facture. Une dernière chose, l'opposabilité ne concerne pas les travaux qui sont recommandés dans le DPE. Seule la conso est opposable. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Vous auriez un DPE qui donne le résultat que j'ai annoncé. Il est écrit dans le DPE qu'il y a des fenêtres double vitrage et 25 cm d'isolation laine de verre dans les combles. Il s'avère, il y a un écart de consommation, il s'avère dans la réalité qu'il y a des simples vitrages à certains endroits et que la laine de verre n'est pas si épaisse que ce qui a été annoncé. Les points d'entrée sont faux. Résultat, la conso est fausse. Et là, ça devient opposable. Que faut-il retenir du nouveau DPE? La première chose, c'est qu'il dure 10 ans. La seconde essentielle, c'est qu'il s'agit cette fois du même document entre pour la vente et pour la location, ce qui n'était pas le cas précédemment. Autre chose, une seule étiquette, une étiquette globale. Vous avez deux étiquettes qui servent au calcul. Une première étiquette, celle que vous connaissez tous, de vert à rouge, qui est donc l'étiquette énergie, la consommation énergétique. Et vous avez, en parallèle de ça, la fameuse étiquette climat, qui est l'étiquette grise-violette, qui quantifie les émissions de gaz à effet de serre. Attention, ce qu'il faut noter, et ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est la fusion des deux étiquettes qui va donner une seule étiquette, bien entendu, l'étiquette globale, et que c'est la plus mauvaise lettre des deux qui va donner l'étiquette générale. Je dis bien la plus mauvaise lettre. Alors vous commencez à comprendre les enjeux de ce DPE. Ce qui signifie que si vous avez un logement qui est plutôt convenablement rénové, qui a suivi les rénovations classiques, qui aurait une étiquette de D, par exemple, et qui en parallèle est chauffé au fioul. Forte émission de gaz à effet de serre, vous aurez vraisemblablement une lettre de F du fait des émissions de gaz à effet de serre. Résultat, votre logement sera F en étiquette globale, quels que soient les quelques travaux de rénovation qui aurait pu être fait. Donc typique hein, pour des logements des années 70, 80, 90, c'est tout à fait le genre de choses qui peut arriver. Au même titre, que vous pouviez avoir précédemment des logements ou que vous pourriez avoir des logements à chauffage électrique qui pourraient avoir une lettre de E éventuellement et qui, du fait de la non-production d'émissions de gaz à effet de serre, vont se maintenir, voire un petit peu remonter. Donc on n'est pas du tout dans une logique seulement d'isolation, on est dans une logique de conjonction entre l'isolation et les émissions de gaz à effet de serre. Donc clairement, les logements qui sont étudiés avec des chauffages au fioul ou au gaz sont des logements qui sont pénalisés au sens de l'étiquette. Par ailleurs, nous avions avant une quantification simplement quasiment au centime près, plus du tout. Aujourd'hui, nous sommes sur une quantification d'une fourchette. Donc on va vous indiquer que vous consommez entre tant et tant pour ce logement. Le coût de l'énergie est mis à jour annuellement et en fonction des énergies, énergie par énergie. Alors pourquoi la fourchette? C'est tout à fait logique, à cause de l'opposabilité, hein, il y a une certaine latence, hein, ne serait-ce que pour l'eau chaude, les auxiliaires de consommation. Sur un logement de type 4, si vous êtes 2 ou 5, ça change tout. Donc ça prévoit tout ça et la latence climatique, ce qui est absolument logique. La méthodologie. Je vous disais, on est passé d'une méthodologie estimative à une méthodologie bâtiment et construction et climatique. Plus de prise en compte des factures. On est uniquement sur des données techniques. On va rehausser avec les énergies renouvelables. Hein. Il n'y a plus d'éléments comparatifs. Finalement, comment on pourrait prendre ça? C'est la collecte des factures et la collecte des points d'entrée qui va donner la justesse du DPE, ce qui veut dire qu'il y a zéro marge de manœuvre. Il va falloir être draconien sur la façon dont on alimente le DPE, dont on justifie ce qui constitue le logement, parce que ça va nécessairement avoir une influence sur la note. Alors comment se découpe le DPE dont je viens de vous parler? Trois axes, trois couleurs, trois repères. Au final, c'est comme un gigantesque algorithme. On lui a donné des tas de données que l'on va justifier. Une fois ces données alimentées, eh bien, ça va donner ce résultat, le fameux DPE, en trois morceaux et trois volets. Donc, je vais vous le quantifier en couleur, hein, c'est le cas. Le volet vert, l'information, la grille de lecture, la photo, la synthèse du logement. Très, très graphique. Le volet bleu, les fameux points d'entrée. Point par point, comment tout ceci a été alimenté. C'est-à-dire la reprise de tous ces éléments qui ont donné les conclusions. Et pour finir, le volet orange. Le volet orange, quel est-il? Eh bien, ce sont les préconisations de travaux ou de bouquets de travaux à mettre en œuvre. Donc, tout ceci, c'est la synthèse. La partie bleue, c'est la reprise des points d'alimentation. C'est donc la partie que vous allez éventuellement, de temps en temps, relire ou vérifier pour vous assurer, et sur lesquelles, d'ailleurs, vous avez une grosse action en fourniture et en justification des données, sur lesquelles vous allez pouvoir appuyer ou valider tout ce que vous allez délivrer dans le cadre du DPE. Alors je vais vous expliquer la logique de construction du DPE pour que vous compreniez bien à quel moment vous avez des actions pour alimenter ce DPE et finalement avoir des meilleures lettres et que vous puissiez le décrypter. Vous avez tous sûrement vu une feuille bleue. Hein. Une feuille bleue, elle comporte comment sont analysés les points. Donc vous êtes pièce par pièce, on va vous donner l'épaisseur des murs, le type de fenêtre, l'épaisseur des fenêtres, etc. Des tas de choses, l'âge de construction. Vous avez vu trois choses toujours sur ces DPE, c'est ce que nous avons en illustration. Vous avez document fourni, vous avez mesure observée, et vous avez par défaut. Par défaut qui est toujours rouge, le reste reste en couleur bleue. Document fourni, ça veut dire qu'on raisonne en données réelles. Vous avez donné le permis de construire, la date de construction, vous avez donné les factures de travaux, et bien ça va compter dans le DPE comme quelque chose d'absolument réel, c'est-à-dire ben, j'ai fait une isolation des combles en 2016, facture de 2016 avec tant de laine de verre et tant d'épaisseur. Charge au logiciel, lui, de calculer à partir de 2016 les coefficients d'érosion ramenés à ça. On est sur du 100% sûr. D'accord. Quand vous êtes sur des données mesurées, observées, ça suppose que le diagnostiqueur n'avait aucun élément, qu'il a pu aller sur place et qu'il a pu vérifier. Il va noter qu'il a vérifié. Typique, une épaisseur de mur ou une qualité de mur si c'est accessible. Ça reste une mesure intéressante, mais sans âge, sans point de départ. Or, je reviens à mon histoire de laine de verre. Vos combles sont accessibles, il est allé dans les combles, il a mesuré une laine de verre, en 2022 par exemple, de telle épaisseur. Donc on va dire, ben, à cette époque-là, elle est de telle épaisseur, donc mesure totalement amoindrie par rapport à la réalité. Mais ça reste existant. L'autre option, c'est donnée par défaut. La donnée par défaut, qui est écrite en rouge avec la petite croix, là, ce que vous avez sous les yeux, ça voudrait dire, dans l'exemple que je viens de prendre, que votre diagnostiqueur est incapable de mesurer ou d'observer, parce qu'il n'a pas l'accès, soit que vous ne lui avez pas fourni de document qui justifie. Donc le résultat, c'est qu'il n'y a rien. Pour lui, c'est une donnée par défaut, il n'y a rien. Donc je reviens à mon histoire de comble. Toujours la même histoire, toujours le même truc. Il n'a pas pu accéder au comble, même vous n'avez pas de facture, même s'il y a de la laine de verre ou une isolation quelconque, ça comptera sans isolation. Ça peut être très très impactant, par exemple, sur des doublages de murs. Un doublage de mur, il y a une facture, ben on va dire, le mur il est doublé, j'entends du placo, ça veut dire doublage. Si j'ai une facture, on va me dire quelle laine de verre, quel coefficient d'érosion, on est certaine. Si d'aventure on peut vérifier, et si le diagnostiqueur veut bien le faire parce qu'on enlève des prises, eh bien on va voir qu'il y a de la laine de verre de telle épaisseur, et éventuellement présumer que sur ce mur-là, il y a toute l'épaisseur, il y a cet isolant. En revanche, si on n'a aucune capacité de vérifier et aucune facture, même si votre mur est isolé, ça comptera pour du simple B13. Là, vous venez de comprendre que ça change absolument tout. Donc, d'où l'intérêt d'être extrêmement rigoureux dans la collecte des factures ou la sensibilisation à votre bailleur ou votre vendeur. Alors, quelles pièces à minima vous allez devoir collecter pour avoir une bonne construction DPE dans votre fameuse feuille bleue? Alors, à minima, justifiez de l'année de construction, que ce soit le titre de propriété, que ce soit le permis de construire, la déclaration d'achèvement des travaux. Attention, vous pouvez tout à fait également avoir des biens qui seraient agrandis, construits en plusieurs fois, voire qui aient fait l'objet de rénovations très lourdes. Donc, tout ce qui va justifier de l'âge de la construction, c'est repris partout. Il vous faudra au maximum les factures de travaux en elles-mêmes. Je dis bien les factures de travaux, sûrement pas de consommation. Les factures des équipements de chauffage, de climatisation, d'énergie renouvelable, de ventilation, éventuellement d'installation électrique hein, au sens des radiateurs électriques, d'isolation de sous-face de plancher, donc tout ce qui a fait l'objet de travaux. Ça comptera donc pour une date, une donnée, une érosion. compte tenu de l'âge. Attention également au justificatif d'entretien des équipements, à savoir les chaudières, tout ce qui produit d'énergie, les chaudières, les clims, etc. Si vous justifiez convenablement de l'entretien annuel, eh bien, le résultat sera meilleur, puisque la performance énergétique sera meilleure. Vous allez fournir toutes les autres factures d'isolation. Isolation intérieure, isolation extérieure, vitrage, doublage des murs, façade doublée par l'extérieur, tout ce qui va générer des travaux d'isolation. Ça, c'est dans le cadre du logement individuel, hein, bien entendu. Si tout ça est parfaitement juste, alors on parle de factures de moins de 20 ans. Hein. Jusqu'à 20 ans, tout compte. Donc, ce qui veut dire que vos vendeurs et vos bailleurs ont tout intérêt à aller aux archives. Hein. Faire un tour. Autant l'époque où on leur donnait au diagnostiqueur une clé en leur disant « va faire un DPE » était intéressante et facile, autant la nouvelle époque est très impliquante. Il va falloir expliquer aux uns et aux autres qu'il y a une collecte qui a une influence. Vous dire qu'il y a une énorme influence sur la lettre, c'est marginal, une influence sur la conso, c'est une réalité. Plus les données sont justes, mieux c'est. Alors parfois, vous venez de comprendre aussi comment on peut passer d'une mauvaise lettre qui serait... un F un peu haut, à un E qui changerait tout, ben c'est exactement pour ça. C'est parce que vous avez les bonnes données que vous aurez le bon résultat. Un exemple, vous avez sous les yeux un DPE, ou tout au moins la feuille de construction d'un DPE. Une des feuilles. Sur toute cette feuille, vous n'avez que des mesures observées, mesurées. Ce qui signifie qu'il n'y a strictement aucune facture de données réelles. C'est le diagnostiqueur qui a pu aller vérifier l'épaisseur des murs, l'épaisseur des plafonds, l'épaisseur des planchers, etc. Et puis vous avez sous les yeux une mesure qui est valeur par défaut. Quelle est la valeur par défaut ? Année de rénovation. Donc il a dû spéculer. On est incapable de déterminer quelle était l'année de rénovation alors que c'était un bien rénové de ces plafonds. Donc cette valeur par défaut. La valeur par défaut, elle est systématiquement défavorable au bien. Donc dans ce que vous avez sous les yeux, c'est la fourchette 48-74, mais défavorable. Alors vous pouvez trouver des DPE dans lesquels de nombreuses données ne peuvent pas être justifiées, à défaut de fournir les éléments, tout simplement. Ce sera donc avec beaucoup de données par défaut, beaucoup de données par défaut, égale mathématiquement scénario défavorable pour le bien. Parmi les données étudiées, et en termes de présentation, eh bien, comprenons comment sont réparties les consommations. Vous avez dans le DPE une fiche rose, que vous aurez en illustration. Cette fiche rose va quantifier quoi ? La part de chauffage dans la consommation énergétique, la part d'eau chaude, la part de refroidissement si votre logement est équipé de climatisation, le coût global d'énergie de tout ce qui est auxiliaire, c'est-à-dire les appareils ménagers, tout ce qui fonctionne dans le logement, tout ce qui est prévu en termes d'appareils ménagers, et également toute la part d'éclairage. Donc tous les DPE sont répartis comme ça en énergie globale, avec la pondération, une fois de plus, des énergies renouvelables qui viennent faire baisser la note. Donc celui que vous avez sous les yeux, chauffage électrique, 78% de la conso globale, c'est le chauffage, c'est-à-dire énormissime. Hein. Production d'eau chaude, 21% de la conso, production électrique. Refroidissement, zéro refroidissement, la ligne vierge, donc pas de clim. Éclairage, vous avez, et auxiliaire, vous avez 1%. Donc si vous arrivez à bien lire les feuilles roses, vous allez décrypter hein, tout ce qui est conso énergétique du logement. Une chose qu'il est important de mesurer également dans ces DPE, c'est ce que vous avez dans l'exemple, hein, c'est que tous les DPE sont faits et construits pour le postulat d'un chauffage à 19 degrés, et pas au-delà. Absolument tous, quelle que soit la taille de votre logement. En revanche, il y a une donnée qui est variable, c'est la production d'eau chaude. La production d'eau chaude, elle est totalement produite par l'algorithme. On mesure la surface habitable, la typologie du logement, et l'algorithme, en moyenne, il va dire, pour ce logement, on a tant d'eau chaude à chauffer. Donc ça peut être variable d'un occupant à l'autre, ça reste une moyenne mathématique. Ce qui veut dire, je reviens à l'opposabilité, que ça a prévu finalement toutes les hypothèses, qu'on ne sera pas opposable parce qu'on a chauffé plus eau chaude. Hein. C'est pas ça le sujet. Donc j'insiste, les productions d'eau chaude variables, la climatisation et le chauffage, strictement identiques sur tous les logements, c'est le même postulat. Alors on a dit que l'intérêt, c'était ces fameuses feuille verte, il y en a deux, que sont la synthèse du logement. Si vous savez décrypter la feuille verte, eh bien vous saurez décrypter des tas de choses. La bonne lecture de la feuille verte vous permettra de savoir à coup sûr où vous vous situez et quasiment ce que vous pouvez améliorer. Or, la première chose dans la feuille verte, c'est d'avoir repris des données que sont l'année de construction, la surface habitable, au sens du code de la construction, on n'est plus du tout sur la surface habitable chauffée, mais la surface habitable au sens large, ça va reprendre également l'altitude auquel on se situe, puisque DPE qui aurait été fait à Nice pour exactement le même logement et quelque part sur les hauteurs en Savoie n'aura forcément pas le même résultat, même si le logement est identique. Donc les données climatiques sont toujours intégrées. Ça, vous l'avez en début de DPE. Ensuite, vous avez la fameuse synthèse hein, dont je vous parlais tout à l'heure. L'étiquette globale que vous avez sous les yeux, qui va de A à G, F et G constituant les passoires thermiques, c'est ainsi que l'on détermine une passoire thermique. À F ou G, vous êtes face à une passoire, vous avez les lettres rouge et orange, et vous avez la petite grimace qui vous dit que vous êtes face à une passoire. À côté de ça, vous avez la fameuse étiquette climat. L'étiquette climat, ce sont les gaz à effet de serre. Donc si vous savez lire un DPE, dès lors que vous avez une lettre plutôt basse en dessous de E, ça veut dire que vous êtes face à une émission de, une énergie à émission de gaz à effet de serre, donc énergie fossile. Si vous êtes sur une entre guillemets bonne lettre de ce point de vue-là, vous êtes plutôt sur des chauffages électriques, et donc par définition, si vous savez lire, si vous avez mauvaise lettre énergie et bonne lettre climat, ça veut dire que vous avez plutôt un logement poreux, d'accord ? Si vous avez une lettre moyenne énergie et une mauvaise lettre climat, ça veut dire que vous êtes face à des émissions de gaz à effet de serre. Donc de façon tout à fait évidente, par rapport à ce que je viens de dire, dans l'exemple que vous avez sous les yeux, vous avez une étiquette de G pour le logement, étiquette globale, et vous avez une étiquette de C pour le climat. Donc on est face à un chauffage électrique, étiquette C, c'est pas possible en climat avec une énergie renouvelable, mais on a une étiquette globale qui est très mauvaise, ce qui veut dire super mauvaise isolation d'un logement. Au premier coup d'œil, on est capable de voir ça. La suite est de façon logique, hein, puisque vous avez vu que nous parlons d'une surface qui est relativement petite, fourchette de consommation, 1380-1900 €. Ce qui va être absolument essentiel, c'est la fameuse feuille verte, c'est-à-dire la feuille de synthèse. C'est ça, tout à fait l'ambition de ce DPE, c'est donner une vision globale du logement. Alors qu'allez-vous voir ? Ben, la photo qui représente tout le logement. Alors qu'est-ce qu'on a là sous les yeux ? On est toujours dans le même exemple. Hein. Vous avez une synthèse de par où le logement perd de l'énergie. Alors qu'est-ce que j'ai là ? Toiture ou plafond, 0%. Mur, 11%. Plancher 18%, pompe thermique 16%, portes et fenêtres 19%, ventilation 36%. Donc le schéma de synthèse reprend tous les postes de déperdition d'énergie. Ce qui veut dire qu'au premier coup d'œil, vous savez où vous pouvez avoir des leviers. Je rentrerai dans le détail tout à l'heure. Bon, en l'occurrence là, hein, dans celui-ci, de façon tout à fait évidente, ça veut dire qu'on ne peut rien faire au-dessus, puisqu'on a 0% de déperdition. Ça veut dire qu'on a le logement au-dessus, d'accord ? De façon logique. La performance de l'isolation, C'est la seconde quantification de la feuille verte. En haut à droite, vous avez quoi ? Insuffisante, moyenne, bonne, très bonne. Là aussi, c'est l'algorithme. Globalement, j'ai plus ou moins une bonne isolation, ramenée à tous les éléments. En l'occurrence là, j'ai isolation insuffisante. Donc après, hein, on va les lire dans le détail et dans la feuille bleue, mais on a déjà pas mal d'indices. Une chose qui est extrêmement intéressante, c'est le système de ventilation mis en place. Pendant très très longtemps, la ventilation a été particulièrement mal considérée dans l'étude de la performance thermique d'un logement. Or, la ventilation, c'est essentiel. Vous pouvez isoler tout ce que vous voulez, si vous ne gérez pas convenablement l'isolation, vous n'aurez pas une bonne performance thermique, quoi qu'il arrive. Donc de fait, dans le nouveau DPE, on a fait beaucoup de place au système de ventilation qui a une étiquette à part et une quantification à part. Donc en l'occurrence, dans l'exemple que vous avez sous les yeux, système de ventilation en place, ventilation par ouverture des fenêtres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de VMC, ça veut dire que potentiellement il n'y a pas de réglette aux fenêtres, donc on a un logement qui a été plus ou moins isolé de façon insuffisante, sans ventilation. Il n'y a pas de ventilation. Alors rien n'oblige à installer une ventilation, mais on voit là directement dans le DPE qu'on n'a pas de ventilation, quelle qu'elle soit, on n'a pas de système de renouvellement d'air. Vous avez déjà une idée de vos leviers. Bon, comme par hasard, vous allez regarder à côté le schéma des déperditions de chaleur sur l'exemple que vous avez sous les yeux. Vous avez ventilation par portes et fenêtres. Et le gros hasard, par où mon logement perd le plus de performance thermique, 36% par la ventilation. Vous avez tout sous les yeux. C'est sur ce sujet-là que vous arriverez à corriger certains éléments. Du point de vue de ventilation, dans un DPE, qu'est-ce que vous allez trouver? Ventilation par portes et fenêtres, ventilation par grille, VMC, simple flux, double flux et gros B. Vous aurez 5 hypothèses. Vous savez toujours ce que vous avez en face. Si vous le corrélez au schéma de gauche, vous verrez immédiatement si vous avez des leviers ou pas dans le logement que vous avez face à vous. Dans cette feuille verte, vous avez un confort d'été hors climatisation, ce qui veut dire, s'il n'y a pas de climatisation, est-ce que mon logement arrive à se tempérer lui-même convenablement? Un indice comme un autre. En revanche, quelque chose qui pèse énormément sur les DPE, en bas à droite, la production d'énergie renouvelable dans mon logement. Quelles sont les énergies qui sont prises en compte? Y a-t-il une pompe à chaleur? Y a-t-il des panneaux solaires ou des panneaux photovoltaïques qui produiraient de l'énergie au bénéfice du logement? A-t-on un chauffage par géothermie? A-t-on un chauffage au bois? Alors quand on dit chauffage au bois, ce sont uniquement des chauffages au bois dans le cadre de foyers fermés. Une cheminée à foyer ouvert, ce n'est pas une mesure de production d'énergie renouvelable. Les chauffe-eau thermodynamiques, les panneaux solaires et thermiques, et les réseaux vertueux de chaleur, ce qui est plutôt rare. Donc vous avez ces 5 sources d'énergie renouvelable qui peuvent être quantifiées dans votre DPE. Alors elles sont toujours citées, vous l'avez sous les yeux, en gris. Si d'aventure vous avez une mesure dans votre logement qui compte, qui est présente, elle est mise en vert et en surbrillance. Donc dans celui que vous avez sous les yeux, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien dans celui que vous avez sous les yeux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez avoir des énergies de gaz à effet de serre qui vous plombent la note avec des logements plus ou moins bien isolés, et vous pouvez avoir en face des énergies renouvelables. Et ces énergies renouvelables, c'est un peu comme dans l'électricité, pour ceux qui connaissent, ça marche comme une mesure compensatoire. Ça vient rehausser la note, en fait. Donc ça vient faire baisser la facture, ça compte, mais il n'y a pas que ça. Ça vient surtout rehausser la note. Donc extrêmement important de savoir lire ça. Alors on verra d'autres exemples tout à l'heure. Si on sait décrypter les deux feuilles vertes, on a tout sous les yeux. Vous avez donc, à la fin de vos DPE, les fameuses feuilles oranges, c'est-à-dire la synthèse du bâtiment, ce qui est pris en compte, mais surtout toutes les mesures de recommandation, avec un postulat de deux bouquets de travaux. Un bouquet de travaux qui serait recommandé, entre guillemets, à pas cher, pour un petit peu augmenter la note et vous dire où vous serez à l'issue de ce bouquet de travaux, et un bouquet 2 qui est dit bouquet élevé, à plus cher, avec des mesures de rénovation globale, qui vont indiquer la note théorique. Alors reprenons notre exemple, c'est toujours le même DPE, qui nous sert de fil conducteur. Vous avez une vue d'ensemble du logement, dans lequel on vous dit que l'isolation des murs est plutôt bonne, avec les épaisseurs qui sont reprises et que vous avez sous les yeux. On vous dit que le plancher bas, c'est la catastrophe insuffisante, dalle béton non isolée, donnant sur le terre-plein. On l'avait remarqué, puisque dans la feuille verte, on avait une très très forte déperdition par le sol. Ce que vous avez sous les yeux, c'est qu'on ne pourra jamais les corriger de ce côté-là, compte tenu de la typologie. Vous avez la toiture qui donne sur un local chauffé, alors ça nous dit qu'on est dans un bâtiment immeuble en monopropriété, et vous avez une isolation des portes et fenêtres qui est réputée moyenne, puisque ce sont d'anciens doubles vitrages qui n'ont pas la performance d'aujourd'hui. La vue d'ensemble des équipements, chauffage électrique, panneaux rayonnants, on s'en doutait depuis qu'on a lu le premier DPE, puisqu'on avait une bonne lettre de C. On a un ballon d'eau chaude et une ventilation par les fenêtres, donc corollaire de tout ce que l'on a vu. Si on lit la feuille orange, premier bouquet de travaux, montant global estimé 2 000 à 3 000 euros. aller toucher les planchers, on pourrait éventuellement, sur la dalle, aller rajouter un isolant, un petit peu compliqué. Mettre des régulateurs de chauffage, très bien. Et passer à un autre style de ventilation. Chaque fois que l'on règle les problèmes de ventilation de logement, on va améliorer sa performance thermique. Chaque fois que l'on augmente la ventilation, on améliore sa performance thermique. Le bouquet 2, lui, il parle de travaux qui sont un peu plus élevés, c'est-à-dire le home, plus tout ce qui est fenêtres à mettre en œuvre. Et là, il vous dit, à la fin, que vous fassiez le bouquet 1 ou le bouquet 2, vous resterez en lettre E, c'est que la conso qui ne va pas bouger. Alors il convient de prendre ces feuilles oranges avec énormément de prudence, que vous soyez transactionnaire ou que vous soyez administrateur de biens. Je vais oser vous dire que ces feuilles oranges, ce ne sont que des indications, ce n'est pas un audit, c'est toujours l'algorithme qui donne un résultat sur vers où on veut avoir. Allez, on veut aller aujourd'hui vers un monde entre guillemets tout électrique. Donc tous les postulats relèvent du fait de passer à l'électricité, que ce soit adapté ou pas au logement dont on parle. Si vous avez un chauffage au gaz, si vous avez un chauffage au fioul, quasiment toutes les feuilles oranges vont vous recommander d'aller vers des pompes à chaleur. Alors, c'est pour ça, c'est très intéressant parce que ça donne des axes. En revanche, ne jamais prendre ça comme des données en valeur absolue, ce ne sont pas des audits. Donc si vous êtes administrateur de biens, énormément de prudence. Si vous êtes transactionnaire, eh bien les audits énergie qui vont venir être obligatoires dès lors que vous aurez des lettres F ou G, eux vont faire le job logement par logement pour vous dire là il va falloir telle isolation, tel type de chauffage, faire la conjonction avec telle ventilation. Là, on sera au cas par cas et au réel. Il faut bien comprendre que les feuilles oranges du DPE restent extrêmement théorique, ce ne sont que des axes. Nous avons donc vu un DPE dans son intégralité. Quelle est votre action vis-à-vis de vos clients face à ce DPE? Alors, vis-à-vis de votre vendeur ou de votre bailleur, la feuille bleue, c'est l'essentiel. Ce sont les points d'entrée. Vous avez une action sur la feuille bleue. La qualité de la conclusion reposera sur la qualité des points d'alimentation. La feuille verte, c'est le nerf de la guerre. Si vous maîtrisez la feuille verte, si vous êtes capable de l'expliquer, de la décrypter, vous avez tout là-dedans. Vous saurez même imaginer les leviers. Vous allez éventuellement conseiller votre vendeur, vous allez éventuellement conseiller votre bailleur, mais surtout, vous allez décrypter avec votre acquéreur ou votre locataire. La feuille verte, c'est pas compliqué, il faut la maîtriser. C'est avec ça que vous allez gérer votre relation client et votre relation commerciale, avec les deux parties. La feuille orange, elle existe, elle est intéressante, il faut simplement la dédramatiser. Je prends un exemple, la feuille orange va quantifier des coûts. Vous allez vous retrouver face à un acquéreur. Il n'y a aucune garantie que ça marche, sauf que parfois vous avez des bouquets de travaux très élevés. Donc vous allez vous retrouver avec une négociation relative à ça, qui ne colle pas au logement. Si vous savez parfaitement décrypter la feuille verte, vous allez inverser la tendance et reprendre la main. Alors vous l'avez compris, un DPE c'est peut-être quelque chose de très générique, on étudie privatif par privatif. Chaque logement privatif, il n'y a pas de données collectives là-dedans. Dans la réalité, vous vous retrouvez face à trois situations. Soit vous êtes face à une maison ou un logement individuel sur lequel vous rentrez toutes les données techniques, à savoir l'isolation des murs, l'isolation des combles, du sous-sol, etc. Donc vous serez hyper proche du réel et vous aurez donc des leviers et des axes à recommander. L'autre hypothèse, c'est que vous allez vous retrouver avec des immeubles en monopropriété. Alors je viens de dire que on est logement par logement. Ce qui va signifier que quand vous vendez un immeuble ou que vous êtes dans le cadre locatif d'un immeuble en monopropriété, on va voir chaque logement. Mais si vous n'avez pas donné les factures ou l'accès pour le collectif, c'est-à-dire pour ce qu'il y a dans les combles, pour ce qu'il y a dans les sous-faces, tout ce qui est collectif, si vous avez compris la logique, ça ne va pas compter. On sera en données par défaut. Donc par définition, vos logements du dernier niveau ou du rez-de-chaussée sont extrêmement désavantagés à défaut d'avoir alimenté certains postes. Alors vous allez le voir dans une illustration tout à l'heure. Ce qui signifie que dans le cadre d'un immeuble à monopropriété, vous avez un seul propriétaire en face, futur vendeur ou bailleur, vous savez aller laisser l'accès, vous savez aller collecter ces factures-là. De fait, Si vous vous donnez ces axes et cette discipline, vous aurez des résultats réels et vous ne pénaliserez pas votre premier ou dernier niveau. À défaut, vous pénalisez. L'autre hypothèse, c'est le bien que vous aurez en copropriété. Le bien en copropriété, lui, ne seront étudiés que les données privatives, donc ce qui relève de la copropriété. Tant qu'il n'y a pas d'EPE collectif, ça ne va pas être alimenté. Ce qui signifie que tous les logements à étage intermédiaire seront plutôt avantagés, et les logements, même logique, du dernier niveau, qui sont les logements par définition souvent les plus commerciaux et les plus belles valeurs, seront les logements les plus défavorisés, à défaut de pouvoir alimenter les données d'isolation. Et les logements de premier niveau. Alors pour terminer avec cette logique de construction, vous avez sous les yeux un schéma d'un immeuble, fût-il en copropriété ou en monopropriété, un immeuble de 5 logements. Vous avez un dernier niveau, c'est le numéro 1, et deux niveaux, deux appartements de rez-de-chaussée, le 4 et le 5. Et des appartements intermédiaires, numéro 2 et numéro 3. Numéro 2 et numéro 3 seront mathématiquement favorisés. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont de l'air au-dessus ou un occupant au-dessus, ça va être considéré comme un isolant. Souvenez-vous de l'exemple de tout à l'heure, quand on a décrypté la feuille verte, vous aviez 0% de déperdition de chaleur par le haut, ça nous indiquait mathématiquement qu'il y avait un logement au-dessus, sinon c'est impossible. Donc c'est le cas du logement 2 et 3 que vous avez sous les yeux. Alors ça pourrait être le 4 ou le 5, mais lui il aurait des données défavorable au rez-de-chaussée, alors que le 2 et le 3, ils n'ont aucune déperdition de chaleur au-dessus ou au-dessous. Donc très favorisé aujourd'hui. Le numéro 1, très défavorisé, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a au-dessus, on étudie que le privatif. Si vous êtes dans un immeuble en monopropriété, vous saurez aller chercher la donnée. Si vous êtes dans une copropriété, vous n'avez pas cette donnée-là, et mathématiquement, votre logement sera très désavantagé dans le résultat. Il aura 0% de déperdition de chaleur en rez-de-chaussée, mais tout par les combles. Votre logement 4 et 5, ce que vous avez sous les yeux, ben lui, il est à même le sol. Alors là, des tas d'hypothèses. Soit il est construit sur le sol, et on n'a plus grand-chose à faire. Soit il est construit sur des caves qui sont accessibles, et les données vont compter. Soit il est construit sur des caves ou des sous-sols qui ne sont pas accessibles. Et ça ne comptera que si on a une donnée technique qui va statuer sur le sujet, isolant ou pas isolant. Donc à ce jour, ce que je peux vous dire, c'est que tous les logements qui sont dans les niveaux supérieurs ou inférieurs, premier et dernier niveau, sont mathématiquement pénalisés. Si vous êtes avec des immeubles en monopropriété, vous savez aller chercher, vous savez donner les clés, et faites-le, parce que ça va tout changer. Si vous êtes en copropriété, faut-il être parfaitement informé et savoir expliquer qu'on va être soumis à ce qui se passe dans la copropriété et dans le cadre des DPE collectifs qui vont être mis en place à partir de 2024. Une aparté, compte tenu de la délicatesse de ce sujet-là, une aparté pour ceux d'entre vous qui sont syndic en sus des autres activités. Si vous êtes syndic, vous avez nécessairement accès à ces données. Donc si la laine de verre a été remplacée, si on a une donnée au comble, si on a la possibilité d'avoir l'accès dans les caves, tout ce qui permettra de rapprocher des données certaines va favoriser vos DPE. Donc comprenez qu'il y a une très grosse synergie entre vos métiers. Si vous êtes transactionnaire et que vous n'interrogez pas pour ces logements-là votre service syndic, pour laisser l'accès au diagnostiqueur ou pour donner les factures ou les éléments, vous allez mathématiquement plomber votre DPE, alors que vous allez peut-être le sauver en pouvant donner des données certaines. Je vous propose que nous illustrions tout ce que nous venons de dire à travers un cas pratique. Un cas qui sera sur une maison individuelle, hein, le cas sur lequel vous avez le plus d'action, de façon à ce que ce soit tout à fait lisible. Nous partons donc d'une maison, 111 mètres carrés, construite avant 49 et qui a déjà fait l'objet de rénovation. Qu'avez-vous sous les yeux ? Des étiquettes globales, des étiquettes climat, pile intermédiaire. Face à quoi pourrais-je être comme type de chauffage ? C'est peut-être pas suffisant, on laisse imaginer que c'est quelque chose d'intermédiaire, pas forcément probable que l'on parle d'électricité, et curieux pour une énergie fossile d'être simplement AD. En revanche, consommation globale, fourchette, 1700-2400 euros. fourchette absolument énorme ramenée au logement. Ça mérite de s'intéresser à la construction. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Très étonnant. Performance de l'isolation globale, bonne. Logement qui a donc fait l'objet de travaux. Ça peut expliquer notre LED, pas forcément notre étiquette climat. Je regarde le schéma global, qu'avez-vous? Toiture plafond, 5% de déperdition. C'est très clair, rien à faire de ce côté-là. Ça a été isolé, on a une performance d'isolation impeccable, on a 5%, rien de plus. C'est incompressible. Pompe thermique 5%, on est sur de l'ancien, totalement incompressible. Portes et fenêtres 14%, la norme absolue. Rien à faire. Les murs 21%, ça reste standard, ça reste la norme. 44% de ventilation, ça devient assez intéressant. Hein ? On est en train d'imaginer qu'on a sûrement un levier là sur la ventilation. Et nous avons 11% par les planchers, donc éventuellement quelque chose à voir au plancher en fonction de la typologie que nous allons découvrir dans la description du logement. Ce que nous venons de découvrir nous conduit à regarder ventilation. Système de ventilation mis en place, ventilation par entrée d'air haute et basse, à savoir juste les grilles. Entrée d'air haute et basse, ça veut dire quoi ? Chauffage au gaz, mathématiques, sinon on n'aurait pas des entrées d'air hautes et basses. Donc on a une bonne isolation de synthèse, on a une déperdition par la ventilation n'est assurée que par les entrées d'air. On a affaire sur la ventilation, on est face à un chauffage au gaz. Là, on a déjà trois indices et qu'un levier. La ventilation continue. Production d'énergie renouvelable. Extrêmement intéressant. Chauffage au bois, ça veut dire insert au poêle, nécessairement. Donc, mesure compensatoire. On vient de tout expliquer. On a bien un chauffage au gaz, on vient d'expliquer la LED. On a bien un chauffage au gaz, on a une grosse conso, et on a une mesure compensatoire qui a permis de limiter AD alors qu'on devrait être E ou F. Mais, grosse facture. C'est pas qu'un problème d'étiquette, très grosse facture. Que peut-on faire? Alors, je vais un petit peu plus loin dans la lecture, et après, je vous donnerai les solutions qui ont été envisagées. Je vais lire la feuille rose que vous avez sous les yeux. La feuille rose nous dit... Chauffage GPL, c'est tout à fait marginal, c'est un chauffage gaz de ces grosses cuves en bois avec effectivement un insert chauffage bois. Production d'eau chaude GPL, tout est logique, on a les auxiliaires qui sont quantifiés, tout est logique. En termes de construction sur le DPE, on n'a pas de facture parce que ce sont des travaux qui ont été faits soit par le propriétaire lui-même, soit sans qu'il y ait de factures qui sont tout à fait retrouvables ou quantifiables. Mais tout est accessible, y compris les caves, donc nous n'avons que des mesures, mesurées, observées, c'est-à-dire le moindre mal, hein, à défaut. Alors il nous est venu à l'idée, sans regarder les préconisations de la feuille orange, de se dire, ben, cette consommation, elle est très élevée, que peut-on faire? De ce fait-là, eh bien, on est allé imaginer de passer deux choses, enlever ce chauffage gaz, passer à du chauffage électrique, panneaux rayonnants, bien entendu mettre une VMC, mais VMC haut de gamme, hygro réglable, c'est-à-dire qui s'occupe de répartir l'air chaud et froid et qui s'occupe également d'extraire le surplus d'humidité. Et on s'est dit, l'insert qui est plutôt vieux, on va le remplacer pour un insert à un meilleur rendement pour compenser le chauffage électrique. Et bien qu'est-ce qu'on a? Vous avez la simulation sous les yeux. On est passé à C comme lettre. On a déjà baisser la consommation, et mathématiquement, on est arrivé à A comme lettre, étiquette climat. La conso, 1300-1900 €. On a pas mal baissé déjà. On s'est dit, soyons fous, on va faire tout pareil, la VMC hygro B, on va changer l'insert, et on va mettre une pompe à chaleur. Et bien devinez ce qu'on a. On a une lettre B, on a toujours A pour l'étiquette climat, ce qui est logique, et on est passé de 800 à 1100 € en termes de conso. Donc ceci vous explique complètement tous les leviers de mesures compensatoires et la lecture. Alors je vous montre où on en est par la suite. On est remonté à une lettre qui est quasiment pas améliorable. On a une VMC hygro B, on a une bonne performance de l'isolation. On a toujours la déperdition par la ventilation qui est élevée, ça reste le poste le plus élevé. Mais c'est devenu incompressible et on est arrivé, ramené au logement à la meilleure performance possible. Alors, non seulement je vous ai montré la lecture, je vous ai montré les axes, mais je vous ai également démontré à travers ça que parfois avec des solutions extrêmement simples, on arrive à faire des choses extrêmement intéressantes. Alors, arriver à la pompe à chaleur, c'est un bouquet de travaux qui est très élevé. L'épisode, ou tout au moins l'hypothèse intermédiaire, le bouquet de travaux n'était pas très élevé. Et ça a malgré tout permis d'obtenir une lettre de C. On aurait laissé le chauffage et on aurait fait que la ventilation, on aurait malgré tout amélioré, on n'aurait pas fait fondre la facture, mais on aurait malgré tout amélioré la lettre. Hein? C'est ce qu'il faut retenir. Nous allons décrypter un autre cas qui, cette fois, est un cas situé dans une copropriété. Nous sommes face à un logement, 108 mètres carrés, étage intermédiaire, construction des années 60. Tout pour plaire. Ce que vous avez sous les yeux, l'étiquette, E, au sens de l'étiquette globale, consommation 1980-2750 € pour la fourchette, énormissime, ramené à la surface et au fait que c'est en copropriété, étiquette gaz à effet de serre, D, ce qui laisse envisager un chauffage au gaz, et non pas un chauffage électrique. Si vous décryptez la feuille verte, zéro par les planchers, zéro par le plafond. Confirmation, nous nous situons dans un étage intermédiaire. Déperdition ventilation, 29%. Ok, mais déperdition mur, 39%. Donc le gros de la déperdition, c'est les murs. Ceci dit, la ventilation, c'est assez important. Et les ponts thermiques, 17% ponts thermiques sur lesquels vous n'aurez jamais de levier. Reste deux axes. Les murs, la ventilation. Je vais regarder la ventilation. Ventilation naturelle par conduit. Ventilation par conduit, ça veut simplement dire qu'il n'y a même pas d'extracteur d'air, il y a un conduit qui extrait l'air, c'est-à-dire quasiment aucune ventilation dans ce logement. Résultat, performance de l'isolation, ce que vous avez sous les yeux, rouge forcément, très insuffisante. Je vais sur la feuille rose, chauffage gaz naturel, hein, c'est-à-dire eau chaude, production électrique, donc très forte production d'énergie à ce niveau-là. Que faire? Je vais voir les recommandations et je vais voir le tableau de construction. Le tableau de construction, toutes les données sont réelles, mesurées, observées. Je ne peux rien alimenter de façon supérieure ou plus performante. Le sujet, c'est les murs et ça va illustrer la différence entre la copropriété et l'individuel. Les recommandations que vous avez là-dedans, changer la VMC, isoler les murs par l'intérieur, on est sur des bouquets de travaux qui sont plutôt très très élevés, changer les vitrages. En réalité, qu'est-ce qui va se passer? Et passer un ballon thermodynamique. En réalité, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Votre bande vendeur ou votre bailleur va peut-être réussir à faire quelques travaux individuels. Sur la VMC, il n'a pas vraiment de levier parce qu'elle est collective, donc il va pouvoir doubler ses murs par l'intérieur. Mais on est dans une copro des années 60. Ce qui veut dire qu'on ne va jamais arriver à rehausser énormément la lettre, et que dans ce cas-là, pour avoir une très bonne conso et une bonne lettre, on va être condamné à attendre ce qui va se passer dans le collectif et dans la copropriété. Les leviers individuels, il n'y en a pas 10 000, c'est isoler les murs par l'intérieur et éventuellement changer les fenêtres pour une meilleure génération. Donc, différence entre la copropriété et l'individuel, évidente. Nous avons vu toutes les hypothèses et nous avons appris à décrypter un DPE. Charge à vous maintenant de faire l'exercice. Vous allez pouvoir télécharger un DPE modèle, un DPE type. On va partir de quelque chose relativement simple, un logement individuel. Je vous invite à regarder, à commenter et à analyser ce sujet-là. À l'issue de votre réflexion, vous me direz ce que l'on constate, ce que l'on peut améliorer. Vous remarquerez que le cas est un cas type qui peut faire réfléchir avant mise en vente ou avant mise en location. À vous de jouer. Vous avez donc remarqué ce qui saute aux yeux, pourquoi je vous disais que c'était le cas qui fait réfléchir. Eh bien, nous avons F comme étiquette, mais pas un F dramatique, ce que j'appelle les F haut ou les F supérieurs. Ça veut dire quoi ? Mauvaise étiquette, obligation d'affichage, obligation de commercialisation avec étiquette énergie catastrophique, bientôt audit énergie pour la Transac, gel des loyers si vous êtes à la location. Le cas dont on se dit, on l'a face aux yeux, attention, comment je peux faire pour ne pas être F? Sauvable, tout à fait sauvable. Je regarde à côté, let's say, en émission de gaz à effet de serre, ce qui veut dire que je suis face à du chauffage électrique. Consommation, 1270-1700 €. Allons voir ce que nous trouvons dans l'autre feuille verte pour nous éclairer. Où sont les leviers? Je décrypte l'autre feuille verte. Performance de l'isolation, insuffisante. Sans surprise. Déperdition de chaleur, pompe thermique 10%, fenêtre 13%, le standard absolu, mur 18%, plancher 7%, assez logique, ventilation 15%, c'est peu, mais on va aller voir ce qu'il y a en face, et toiture et plafond 37%. On commence à avoir des axes, vous l'avez remarqué. Je vais voir du côté de la ventilation. Ventilation naturelle par conduit. Pas de VMC sur un logement ancien dont certains postes sont convenables, entre autres les vitrages. J'ai une mesure compensatoire, un insert, ce qui veut dire que la réponse ne se trouve pas dans mon mode de chauffage, la réponse se trouve dans l'isolation des combles et dans la gestion de ma ventilation. Ce sont les deux axes. On est en train de démontrer que sur cette lettre F supérieure, on a accès aux combles, on fait isoler les combles et on gère la ventilation soit par une ventilation Y-B, soit par une double flux, mais ne serait-ce que le renouvellement de l'air qui serait lié à l'isolation des combles, et mathématiquement, vous faites sortir votre logement de la lettre F. On vient de voir qu'à la simple lecture des feuilles vertes sans regarder tout le reste, vous avez identifié deux leviers extrêmement simples qui vont vous permettre de remettre ce logement dans les bonnes lettres. Si vous êtes transactionnaire, ça s'appelle du devoir conseil. Vous avez tout intérêt à expliquer ça à votre vendeur, qu'il fasse ces travaux-là avant vente. Ça va tout changer. Il va éviter l'audit énergie, il va avoir une note qui va être sérieusement rehaussée et il aura un bien normal sur le marché. On reste en l'état. On est très pénalisé. Sur la location, même logique. Isolation, VMC, ça peut être des travaux déductibles, ça peut être des travaux sur lesquels on sait aller chercher des aides, hein, pour tous ces travaux-là, ce qui veut dire relativement neutre, investissement inférieur à 3 000 € pour la maison que j'ai face à moi, et un logement qu'on a complètement remis dans son marché avec des choses très très simples.
Salut Fabienne.
Salut Vincent.
Merci beaucoup pour toute cette formation sur le DPE. Moi, j'ai tout compris personnellement. Je trouve ça hyper clair et hyper intéressant. J'ai remarqué que tu parlais beaucoup de certains sujets plus que d'autres, notamment de ventilation et d'isolation. J'en ai conclu que c'était les éléments les plus simples à mettre en place pour gagner une lettre, comme à l'école. Je voulais te poser la question plus de but en blanc sur la fiche verte, sur la feuille verte. C'est quoi les trois premiers trucs que tu regardes quand t'es face à, par exemple, une lettre F que tu sais qu'il va falloir faire passer en E ou un E en D?
Alors, je regarde, bien entendu, je regarde le global.
Ouais.
Alors, ça marche pas tout à fait comme à l'école, hein, parce que ça marche pas à tous les coups, l'histoire de la ventilation et l'histoire des combles. Mais je vous dirais que c'est le premier réflexe à avoir.
Okay.
C'est de vérifier ça. C'est d'aller dans la fiche de synthèse, et qu'est-ce que j'ai? 4 postes. Isolation, haute, basse. Mm-hmm. Ventilation, est-ce que j'ai une ventilation convenable et suffisante? Et éventuellement, isolation des murs.
Okay.
Tout le reste, c'est pas les plus gros leviers. Même si tu as les fenêtres à changer, ça peut faire partie d'un bouquet. Mais dès lors que tu es sur une lettre G, tu seras dans le cadre vraisemblablement d'un bouquet de travaux.
Ok.
Voilà. Alors ça, c'est les travaux. Où tu seras? Sur des logements qui ont déjà été rénovés, sur lesquels tu n'as pas un très gros levier, mais tu vas devoir changer ton système de chauffage, et on parle carrément d'autre chose.
Okay.
Moi, j'ai voulu mettre l'accent sur les leviers qui étaient parfois très simples et les leviers réflexes à avoir pour essayer d'optimiser. Alors, sur du G, il n'y aura pas de miracle, mais sur des lettres F, de façon significative, c'est ce qu'on a vu dans un des exemples, on va arriver à relever tout ça.
Ce que tu disais dans l'autre formation sur comment s'adapter quand on fait de la gestion locative à la problématique de la loi climat. Tu disais qu'on allait passer de 5 millions à 8 millions
oui.
De logements. Toi, ton objectif, c'est qu'on repasse de 8 millions à 5 millions grâce à des astuces qui fonctionnent. Est-ce qu'il y a une autre astuce qui fonctionne? J'ai noté ça sur les énergies renouvelables. Dès qu'on va mettre de l'énergie renouvelable dans le logement, même si c'est un insert, et ça compense la note. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il y a un bon levier?
Alors, même chose, ça ne compense pas à tous les coups pour monter de 2 lettres, mais ça sert d'ajustement. Si on part de très loin et très grave, la seule solution, la seule solution, c'est un gros bouquet de travaux.
Ouais,
on ne va pas s'en sortir avec des ajustements. Quand on est sur du F ou du F-, ben forcément, on a des ajustements qui vont permettre. Et parmi ces ajustements-là, oui, il y a une mesure compensatoire. Hein, on peut tout à fait avoir une mesure compensatoire qui va servir à ajuster. Après, faudra-t-il toujours se poser la question du chauffage d'origine. Garder des chauffages au fioul, ce ne sera jamais durable. Donc la première solution, dès lors que l'on est face à du chauffage au fioul, c'est peut-être pas, entre guillemets, les astuces, c'est déjà de sortir à terme de ce genre de choses.
Quitte à mettre de l'énergie renouvelable, autant faire plus qu'un insert et remplacer l'ancien système de chauffage. Puisque au final l'objectif reste quand même de rénover le parc immobilier et de s'inscrire dans une sorte de durabilité tant pour son parc locatif que pour le futur acheteur si jamais on fait de la transaction. Du coup, merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Ah oui. Alors, ce que je voudrais ajouter en conclusion, c'est que tout ce que l'on a vu, ce sont des choses que finalement vous devez savoir décrypter. Ce sont des réflexes. Si vous êtes face à votre acquéreur, avant de partir, mais clairement dans tous les sens, c'est d'être capable de dire: on va regarder tel élément, tel élément, tel élément. Oui, effectivement, on peut avoir un levier sur le chauffage, on peut avoir un levier sur les mesures compensatoires. On va avoir un conseil, parfois on a intérêt, et c'est ce qu'on a vu dans un des exemples, à donner les axes à un vendeur avant qu'il mette en vente. Idem pour un bailleur. Donc, on n'est pas forcément là dans une panoplie de données techniques, mais ce qu'il faut tout à fait comprendre, c'est qu'on va, si on lit bien la feuille verte, et si on est capable de comprendre les problématiques globales, c'est de mettre en place un certain nombre de réflexes qui vont permettre, au cas par cas, d'ajuster ce que l'on va faire et son discours.
C'est intéressant parce que maintenant qu'on sait lire un DPE, on peut très bien, en plus si on sait lire et qu'on a l'habitude d'en parler avec ses clients, ils sauront que vous êtes le professionnel de l'immobilier qui conseille super bien sur cet aspect-là qui va devenir de plus en plus important à l'avenir. Mais moi, je vois bien une conversation d'appeler l'agent immobilier. Oui, j'ai un ami qui m'a donné votre numéro de téléphone. Je vous appelle parce que mon bien, il est en DPE F et je sais que... Et là, avec votre lecture du DPE, vous pourrez très bien répondre. Envoyez-moi le DPE.
Tout à fait.
Et en très rapidement lui dire, je vous rappelle avec des solutions et c'est une bonne manière de rentrer des mondes. On revient toujours aux mêmes situations, mais c'est avec ce genre de choses qu'on peut avancer. Merci beaucoup, Fabienne.
Complètement. Je mettrai juste un bémol. Hein. Tout ça, ça va forcément servir la profession à se positionner. Le seul bémol, ce sera la copropriété, puisque sur la copropriété, beaucoup moins de leviers à titre individuel.
Fais un petit clin d'œil au syndic, du coup.
Ouais, à nos amis syndics.
Bon courage. Et voilà, bah merci beaucoup. Je te laisse conclure avec l'audience. Merci à toi.
Ok.